Voilà, donc je vous propose de commencer. Bonsoir et bienvenue. Le sujet de ce soir tombe assez bien dans la période liturgique de la fin du carême. Avons-nous besoin d'être sauvés ? Je commencerai par soulever un petit paradoxe sur ce thème du salut. On peut dire qu'il se trouve au cœur du cœur de la révélation chrétienne. La révélation chrétienne, c'est l'annonce d'un salut. On verra ce que ça veut dire. Elle est d'ailleurs ramassée, résumée, récapitulée dans l'Évangile, dans les lettres de saint Paul à de nombreuses reprises. Je vais d'ailleurs vous en lire une formulation que vous connaissez certainement presque par cœur pour beaucoup d'entre vous. Elle est de saint Jean, dans son Évangile. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. » Et saint Jean reprend, « Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. » Vous voyez l'annonce du salut, et on la trouve dans saint Paul répétée à l'envi, l'annonce du salut est vraiment centrale, c'est l'événement chrétien, on pourrait dire. Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ pour sauver les hommes et sauver l'humanité. Et en même temps, on peut dire que, alors là c'est une réflexion personnelle, peut-être qu'elle n'est pas très juste, enfin c'est une perception que j'ai, que s'il y a bien une idée qui est peu recevable et peu reçue de l'époque contemporaine, c'est bien l'idée de salut. On veut bien d'un Jésus-Christ philosophe, sans allusion, prophète plus ou moins inspiré, personnage sympathique, révolutionnaire, mais d'un Jésus sauveur, est-ce qu'on en veut vraiment ? Derrière l'idée de salut, il y a évidemment celle de liberté. Pourquoi aurais-je besoin d'être sauvé ? S'il est question d'être sauvé, c'est qu'il y a en nous une fragilité qui nous empêche de nous sauver tout seul et par nous-mêmes. Et donc l'idée de salut, évidemment, pose la question de la liberté, question qu'on peut poser en termes extrêmement simples, primaires. Que pouvons-nous ? Que puis-je, tout seul, par mes propres forces ? Et aujourd'hui, les conceptions de la liberté qui travaillent la modernité sont des conceptions qui sont... ce qui souvent part dans deux directions opposées au fond. Il y a le rêve d'une liberté d'autonomie absolue, ne pas dépendre, et donc dans cette perspective-là, reconnaître un Dieu et un Dieu sauveur, c'est déjà nier d'une certaine façon la liberté de l'homme, ça c'est l'idée de Sartre. Si Dieu existe, je ne suis pas libre. Et donc le rêve d'une liberté d'autonomie absolue, qui pourrait en quelque sorte se ramasser dans l'expression si commune et en même temps si ridicule, « moi je me suis fait tout seul ». Au fond, c'est ce rêve-là qui nous travaille, être à l'origine de sa propre vie, dans cette perspective de liberté absolue. Et puis, dans le même temps, dans cette même modernité, et parfois à travers les mêmes bouches, on a au contraire la dénonciation inlassable de tout ce qui paralyse, bloque, nuit, empêche notre liberté, de tous les conditionnements. Et donc les sciences humaines se font fort de nous montrer que nous sommes conditionnés par notre psychologie, par notre appartenance sociale, nos origines, etc., etc., etc. Et donc d'un côté, le rêve d'une liberté absolue, de l'autre, la mise à nu sans cesse de conditionnement, de déterminisme plus profond. Bon. Alors face à ces deux messages assez contradictoires, au fond, l'idée chrétienne de la liberté, ou l'idée biblique, disons plutôt, de la liberté, on pourrait la résumer de la façon suivante. On pourrait dire que pour la Bible, alors la Bible ne fait pas de philosophie, vous le savez, mais... on peut tout de même tirer de la Bible un certain nombre de perspectives qu'on peut exprimer dans un langage un tout petit peu philosophique. Pour la Bible, la liberté de l'homme est une liberté créée. C'est-à-dire que c'est une liberté reçue. La liberté est d'abord un don à accueillir. Mais vous voyez le paradoxe, c'est que je suis libre dans la mesure où je m'accueille d'un autre. Et donc, c'est qui dit liberté, dans la perspective biblique, dit liberté en relation, liberté reçue. Alors, pour préciser un tout petit peu ce qu'il y a derrière cette idée de liberté créée, trois idées. Liberté créée, ça signifie une liberté qui est un don. Il ne s'agit pas tant de conquérir sa liberté que de l'accueillir. Et tout le sens du texte ou des textes de création, et le frère nous en a parlé déjà lors d'un second exposé, l'idée de création, c'est l'idée de relation. Ce n'est pas Dieu fabrique des marionnettes, c'est Dieu donne une liberté à un vis-à-vis avec qui il rentre en relation. Donc la liberté est quelque chose qui est donné. Liberté créée, c'est une liberté qui est donnée, mais c'est aussi une liberté qui est limitée. Alors évidemment, quand on dit limitée, aussitôt nos poils se hérissent. Pourquoi notre liberté serait limitée? Elle est limitée, semble-t-il, parce que l'homme ne peut justement se sauver seul. Et que ce salut, il doit l'accueillir d'un autre. Ce qui peut effectivement nous révolter. Liberté donnée, liberté limitée, et pourtant liberté tout à fait réelle, liberté bien réelle. Parce que si l'homme de la Bible s'avisait de ne pas être libre, s'il disait « je ne suis qu'une marionnette », il n'y aurait plus en lui de délibération morale, je n'aurais plus à choisir, à discerner le bien, choisir le bien, et je ne serais donc plus responsable. Alors si vous enlevez la responsabilité, dans ce cas, il n'y a ni faute, ni péché, ni salut. Et le problème, au moins, est réglé. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si le salut est donné, en même temps, il ne peut être efficient sans la collaboration de l'homme. C'est-à-dire ce salut que je reçois, c'est à moi non seulement de l'accueillir, mais en quelque sorte de le déployer dans ma vie. Donc, aucune passivité dans cette idée de la liberté. Voilà. Alors, c'était des préliminaires pour dire dans quelle anthropologie on se situe, une anthropologie d'une liberté qui est bien réelle, mais qui est une liberté qui est une liberté créée. L'homme n'est pas tout puissant, et pourtant, sa liberté est une liberté réelle. Alors, il y aura deux parties dans mon exposé, et puis vous en avez quasiment le texte relativement détaillé cette fois-ci. Donc une première partie pour examiner en quoi la liberté de l'homme est faillible, c'est-à-dire en quoi ma liberté a besoin en quelque sorte d'être libérée. C'est un paradoxe, mais j'ai une liberté qui pourtant se découvre nécessiteuse d'une libération. Donc en quoi ma liberté est-elle faillible? Ça, ce sera la première partie. Et puis la deuxième partie, qui sera plutôt une méditation biblique, c'est qu'est-ce que le salut et qu'est-ce qu'on entend par une liberté sauvée par le Christ? Et donc là, je vous proposerai un petit cheminement biblique à travers les deux testaments. Voilà, donc on y va, première partie. Une liberté faillible. Une liberté qui se découvre fragile, qui se découvre limitée, mais ces limites, en quelque sorte, se situent dans deux ordres différents. Il y a d'abord toutes les dimensions de mon existence dans laquelle, au fond, ma liberté n'est pas a priori impliquée, où je découvre des conditionnements qui sont dans mon histoire, mais qui sont extérieurs à ma volonté. Je m'explique, vous allez tout de suite comprendre à quoi je fais allusion. L'épreuve, la maladie, la souffrance, la mort. De tout cela, je ne suis pas responsable. Bien entendu, on est d'une certaine façon responsable de la manière dont on les vit. Et c'est peut-être ça d'ailleurs la grandeur de la liberté. Mais tout de même, de tel accident, je ne suis pas responsable. De mettre au monde un enfant handicapé lourdement, je ne suis pas responsable. De toutes ces souffrances, je ne suis pas responsable, et de la mort qui nous attend tous, nous ne sommes pas responsables. Alors ça, c'est en quelque sorte une sorte de versant passif dans lequel nous découvrons que notre liberté est limitée, et c'est déjà une certaine crise que nous avons à vivre et que nous vivons certainement les uns et les autres régulièrement, c'est-à-dire de découvrir qu'au fond, bien des choses nous échappent. bien des choses nous échappent. C'est un scandale pour notre liberté. C'est le philosophe Blondel qui l'approfondissait dans son livre L'Action. Scandale pour notre liberté que de découvrir que beaucoup de choses se jouent sans nous, qui peuvent pourtant avoir une influence capitale sur nos vies. Nous, on éprouve le sentiment de l'injustice lorsque le mal accable les plus justes, les plus purs et même les innocents. C'est quelque chose qu'on va retrouver tout à l'heure dans la deuxième partie. Il n'y a qu'à songer au livre de Job, le mal qui s'acharne sur celui qui est juste, qui est pur. Bon. Alors, j'insiste pas trop sur cette première dimension de cette faillibilité de notre liberté, de cet obstacle ou de ces obstacles à notre liberté, parce que malheureusement, je dirais, ça va de soi. Mais l'idée de péché n'est pas encore là. Une deuxième perspective sur la faillibilité de notre liberté, ce sont les limites intérieures. Ce sont les limites qui sont inscrites dans la liberté elle-même. Et là, les choses se compliquent. Parce qu'au moment où nous nous découvrons libres, capables d'actes volontaires, capables de discernement, capables de poser des choix, de prendre des engagements, au même moment, nous découvrons que notre liberté, d'une certaine façon, pour une part nous échappe, pour une part nous résiste, pour une part est faillible. Et nous découvrons au fond que les obstacles les plus profonds à notre liberté sont dans notre liberté. Vous voyez, d'abord on voit les obstacles extérieurs, tout ce qui m'arrive, bon, pas de chance, maladie, épreuve, etc. Bon. Mais progressivement, nous pouvons découvrir que les obstacles les plus profonds sont des obstacles qui sont à l'intérieur de la liberté, qui viennent en quelque sorte la fissurer de l'intérieur. Nous sommes en quelque sorte notre propre obstacle dans l'accomplissement même de notre vocation d'homme. Alors, cette expérience de la faillibilité, on peut la décliner maintenant en plusieurs degrés. Alors, j'en cite quelques-uns, mais je n'ai pas tellement envie de les approfondir, sauf les derniers. On peut commencer par un degré très, très sommaire qu'on peut appeler le degré de la souillure. Quelqu'un qui éprouve une souillure, c'est parce qu'un certain code de l'honneur a été enfreint. Il a regardé ma sœur, dit le Corse. Donc, il a souillé la famille. Donc, il faut que je me venge. Dans cette première expérience de la faillibilité, vous voyez qu'on a un niveau moral très discutable. Il y a un honneur des proxénètes. Il y a un honneur chez les pires voyous. Bon. Et donc, dans l'ordre de la conscience morale, on est à un niveau très sommaire et donc j'approfondis pas trop. J'approfondis pas non plus le sens du délit, puisque le délit est une offense à la loi civile. Mais après tout, certains délits peuvent être moralement tout à fait neutres. Il y a des lois qui ne sont pas bonnes. Bon. Et donc, là encore, la conscience morale n'est pas forcément engagée à un niveau très profond. Alors, j'arrive maintenant, évidemment, aux deux grandes expériences morales et spirituelles, qui sont la première, la faute, et la seconde, le péché. Qu'est-ce qu'on peut appeler la faute? On pourrait dire que la faute, c'est une offense plus profonde, non pas à une loi extérieure, ou non pas seulement à une loi extérieure, mais à une loi de conscience, à une loi morale qui est intérieure. Dans l'expérience de la faute, au fond, je ne reconnais plus mon acte. C'est moi qui ai posé cet acte-là, mais je ne me reconnais pas dans mon acte. Parce que quelque chose de la loi de conscience a été trahi, en quelque sorte. Ça, c'est l'expérience de la faute. Voilà, on est dans l'ordre moral. Et c'est une offense à une loi morale qui est une loi de conscience, une loi inscrite dans le cœur de chacun. Mais alors, le péché par rapport à ça, en quoi c'est autre chose, en quoi c'est différent? Qu'est-ce qui distingue finalement la conscience de la faute, qui est vraiment la conscience morale, de la conscience du péché, dont on pourrait dire que c'est une sorte de conscience spirituelle? Si on raisonne en termes d'actes posés, du contenu matériel de la faute ou du péché, bien souvent ça se confond. Telle chose, bon, je ne sais pas, j'ai semé la discorde dans ma famille, bon, c'est une faute aux yeux de la loi morale, aux yeux de la conscience, c'est d'une certaine façon un péché. Enfin, encore faut-il que je sois croyant pour apporter un regard qui puisse dire c'est un péché. Qu'est-ce qui est spécifique de l'ordre du péché ? Ce qui est spécifique de l'ordre du péché, c'est évidemment le fait que c'est la relation à Dieu qui est engagée et qui est concernée. Donc déjà, on peut dire que d'une certaine façon, un incroyant ne pêche pas. D'une certaine façon, c'est-à-dire en tout cas, un incroyant ne peut pas avoir la conscience du péché. Mais dire cela, c'est encore pas assez dire. Je pense qu'un croyant peut dire telle chose est un péché en se trompant, c'est-à-dire sans vraiment comprendre ce que c'est que le péché. Et je pense que pour vraiment comprendre ce que c'est que le péché, en tout cas c'est ce que dit l'Évangile, il faut comprendre ce que c'est que l'amour. C'est-à-dire qu'on ne peut avoir conscience du péché que dans la conscience d'un amour, que parce que nous nous sentons aimés, parce que nous nous savons aimés. Si Dieu est un juge despotique, compteur, comptable des travers des uns et qui nous attend au tournant, d'une certaine façon, la culpabilité que je peux ressentir à son égard, hein, n'est pas de l'ordre du péché. C'est une culpabilité morbide, si vous voulez, qui relève de la psychologie d'une certaine façon. Hein. La peur du père, bon, c'est pas le sens du péché. Vraiment, le sens du péché, c'est je me sens aimé de Dieu, hein, et je souffre de mal l'aimer. Je souffre de me sentir en rupture avec lui, en mésalliance avec lui, parce que je sais qu'il m'aime. Voilà, me semble-t-il, ce qui est spécifique de l'ordre du péché. Le péché ne se comprend que dans la lumière de l'amour. Alors, c'est le philosophe Kierkegaard qui disait qu'il y a de la joie à se reconnaître pécheur. Alors, on pourrait dire, alors voilà bien un masochiste de première catégorie, il y a de la joie à se reconnaître pécheur. On reconnaît bien les chrétiens, leur autoflagellation permanente. C'est contresens complet, quoi. Il y a de la joie à se reconnaître pécheur parce qu'il y a de la joie à se savoir aimé. Et de fait, plus je me sais aimé et plus j'aime, plus je souffre de mal aimé. Ce qui explique souvent que c'est les plus grands saints qui se trouvent les plus grands pécheurs. Ce n'est pas une histoire de comptabilité de faute. C'est une histoire que, comme ils sont dans cette relation d'amour, ils ont cette espèce d'hypersensibilité à ce qui blesse l'amour. Voilà. Mais je pense que même dans un ordre très humain, dans une affection très forte, dans une amitié très forte, dans un amour conjugal très fort, on ressent quelque chose de ça. Celui que j'aime le plus est celui qui est capable de plus me blesser, et c'est celui que je suis capable le plus de blesser. Voilà. Donc tout cela pour dire que la conscience du péché n'est rien si elle n'est pas conscience d'un amour qui nous précède. Voilà. Ça peut être une des multiples significations de la parabole du fils prodigue, dont on ne sait pas à la fin si l'un des deux fils, ni le premier ni le deuxième, a vraiment compris quelle était sa vraie culpabilité. Chacun est dans son compte d'héritage, ma portion, tu m'as rien donné, tu m'as donné, donne-moi la moitié. Et on ne sait pas trop si les fils ont compris de quel amour le père les aimait. Donc voilà pour cette première partie dont je découvre avec stupeur qu'elle a été très courte. Mais au moins ça me permet de la résumer. Donc, qu'est-ce qui, dans notre liberté, qu'est-ce qui a besoin d'être sauvé, finalement ? On pourrait dire beaucoup de choses. Tout ce qui limite notre liberté, tout ce qui la blesse, tout ce qui vient la blesser de l'extérieur, les épreuves, la souffrance, la mort, qu'est-ce que ça veut dire être sauvé de la mort ? Donc tout ce qui vient la blesser de l'extérieur, tout ce dans lequel, d'une certaine façon, je ne suis pas engagé, enfin, je suis engagé, mais je ne suis pas responsable, hein. Mais plus profondément, hein, cette blessure profonde de ma liberté qui fait que, même quand je veux aimer, j'aime pas. Dostoïevski disait, enfin c'est son personnage Ivan Karamazov, qui est un personnage multifacette, hein, qui en quelque sorte incarne toutes les grandes questions, les grandes angoisses de son auteur, hein, disait, s'il y a bien une chose que je peux pas comprendre, c'est l'amour du prochain. Eh ben oui, on voudrait aimer et en fait on s'aperçoit qu'on n'aime pas, qu'on n'aime pas bien, qu'on aime maladroitement, qu'on aime avec un esprit de retour. On voudrait bien aimer, on voudrait bien faire des choses et Saint Paul dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Et on découvre que notre liberté, non seulement est capable de mal discerner le bien et le mal, mais même quand elle le discerne bien, elle est capable de mal le réaliser. Comme si en nous, quelque chose résistait sans arrêt. On sait où est le bien et on n'y arrive pas. Voilà, c'est ce que la tradition chrétienne appellera le péché originel. Je vais y venir dans un instant. Alors, deuxième partie. En quoi l'Écriture, l'événement biblique et le récit biblique, qui est une relecture de l'histoire d'Israël, en quoi cette relecture de l'histoire d'Israël nous éclaire sur cette liberté blessée et sur ce salut. On peut dire que si la Bible nous parle de l'expérience du péché et l'expérience du mal, elle en parle toujours dans la perspective d'une libération. Ce qui est premier dans la Bible, c'est la promesse. Ce n'est pas l'existence du mal. Ce qui est premier, c'est la promesse. Dieu vit que cela était bon. Si on considère que le texte de Genèse est comme un texte qui donne le principe même de l'alliance, bon, Dieu vit que cela était bon. Le péché, ça viendra après. Quand Dieu donne à Moïse les commandements, les 10 paroles, qui sont les 10 paroles pour en quelque sorte structurer la vie du peuple, la première chose qu'il dit, c'est non pas tu feras ceci, tu feras cela, c'est je suis le Seigneur qui t'a libéré du pays d'Égypte. Je suis le Seigneur qui t'a libéré du pays d'Égypte. C'est-à-dire, on rappelle toujours qu'il y a d'abord une libération. Il y a d'abord une libération, et tout commence par là. L'alliance commence toujours par une libération. Or, si au commencement est la liberté, et si au commencement Dieu vit que cela était bon, bien sûr, qu'est-ce que le mal vient faire dans cette création ? Puisque Dieu est innocent du mal, qu'est-ce que le mal vient faire dans cette création ? Alors, les textes de la Genèse, bien sûr, essayent de le figurer de façon symbolique, etc. Bon, laissons tomber les représentations naïves, mais essayons de comprendre le sens. On en a déjà un petit peu parlé. Comment le texte de la Genèse représente cette contamination de la liberté humaine ? Il faut bien parler d'une contamination. Puisque, d'après le texte, une première désobéissance va, en quelque sorte, par ricochet, rebondir et se traduire par un éloignement de l'ensemble de l'humanité par rapport à son Créateur. Comment l'homme qui est créé bon, par un Dieu bon, peut-il vouloir le mal ? D'une certaine façon, le texte ne dit pas comment. Il le figure, il le théâtralise, il le met en scène. Mais enfin, quand même, ce qu'on peut comprendre, c'est vous serez comme des dieux. Voilà. Le tentateur propose à Adam et Ève d'être comme des dieux, c'est-à-dire de n'être plus des créatures. S'approprier le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est se faire Dieu, se faire l'origine, se faire la source. Le plus amusant dans l'affaire, c'est que Dieu avait dit, le texte dit, à l'image de Dieu, il les créa. Donc ils sont déjà à l'image de Dieu. Donc l'image était déjà donnée. Et que promet le serpent ? Ce qui leur est déjà été donné. Donc il y a un truc totalement illogique. Ils l'ont déjà, pourquoi leur promettre ? Mais c'est le mouvement qui est différent. Ils l'avaient accueilli comme un don. Et le serpent leur propose de le conquérir comme un dû. Et c'est ça le péché. Le péché, c'est vouloir conquérir ce qui est donné. Vouloir transformer le don en dû. Voilà. Je crois bien qu'on en avait déjà parlé, d'ailleurs. J'avais fait le parallèle avec la fameuse parabole du fils prodigue, qui est vraiment intéressante, parce que le texte commence par un enfant qui demande à son père « Donne-moi ma part d'héritage », manière symbolique de tuer le père, mais « ma part d'héritage », c'est-à-dire la moitié, puisqu'ils sont deux. Or, à la fin de la parabole, le père dit au fils aîné « Mon enfant, tout ce qui est à moi est à toi. » Pas la moitié, tout ce qui est à moi est à toi. C'est-à-dire qu'en fait, tout est donné. Tout est donné. Le texte de la Genèse, d'ailleurs, si on revient, tous les fruits, tu pourras manger de tous les fruits, mais pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est pas un arbre en plus. C'est une posture qui est différente, c'est ça n'est plus le don, c'est vouloir conquérir le don, s'approprier le don. Voilà comment le texte éclaire ce que l'on peut appeler le péché, ou le premier péché. Ce qui était donné, l'homme veut le conquérir, l'homme ne veut plus dépendre de sa source. Alors, la théologie chrétienne traduit ce mystère par le dogme peu fréquentable du péché originel. Je dis peu fréquentable parce que c'est vraiment celui qui exaspère le plus certains commentateurs. André Frossard disait, tiens, pour moi c'est le plus facile à comprendre de tous, je le comprends chaque matin quand je me regarde dans ma glace. Bon, c'est une boutade. Comment comprendre, et Pascal, de façon plus inspirée, dit mystère incompréhensible, pour parler du péché originel, d'accord ? Mystère incompréhensible, sans lequel rien ne serait compréhensible. C'est-à-dire que ce mystère du péché originel, de fait, si je le regarde frontalement, vraiment c'est à se tirer une balle. Enfin, comment penser qu'un enfant qui naît aujourd'hui puisse être contaminé par la faute de ses lointains ancêtres ? Il y est pour rien, le pauvre. Et comment se fait-il que à cause de la faute, de la désobéissance d'Adam et Ève, ou de qui vous voulez, celui-là aurait en héritage une liberté blessée, c'est-à-dire une liberté encline à faire le mal. Pascal nous dit « mystère incompréhensible », sans lequel rien ne serait compréhensible. C'est-à-dire que cela éclaire tout le reste. Alors essayons de comprendre. Si on porte un regard individuel sur le péché originel, c'est-à-dire du point de vue de ma liberté, une liberté individuelle. Et puis ensuite, on dira, il faut aussi porter un regard collectif. Mais si on porte un regard individuel, voilà ce que nous dit saint Augustin. Saint Augustin nous dit, alors je crois que la citation figure, c'est par son libre arbitre que l'homme est devenu pécheur, c'est-à-dire qu'au départ, le choix de la désobéissance est d'une certaine façon un choix libre. Mais ce péché a créé en lui, pour son châtiment, une disposition vicieuse qui, de sa liberté, a fait une nécessité. Alors, langage peut-être un peu compliqué, mais pour dire quoi ? Pour dire que peut-être que le premier choix de non-accueil du don, peut-être que le premier choix est libre, mais il me met dans une situation où je perds ma liberté. Donc je crée en moi une disposition vicieuse, c'est-à-dire je ne veux plus dépendre d'autrui, donc je me ferme, et donc finalement quelque chose de mon humanité va être blessé. Voilà, donc est-ce que le péché est un acte libre ? Oui et non. Le fait que je peux pécher est le signe de ma liberté, mais en péchant, je dégrade ma liberté. Tout, évidemment, on peut penser à des exemples un peu faciles, mais après tout éclairants. Je choisis librement la première cigarette, et puis un peu librement la deuxième, et un petit peu moins librement la troisième, et puis à la fin, je choisis plus du tout de fumer ou de pas fumer. J'ai créé en moi une disposition qui fait que ma liberté s'est perdue en cours de route. Alors, je ne développe pas plus, enfin, saint Augustin continue, sous ce servage de la liberté, enfin du péché, sous ce servage, ou bien nous ne pouvons avoir l'intelligence du bien que nous voulons, ça c'est quand, à force de faire le mal, je n'ai même plus conscience de faire le mal, je dis, bon, après tout, ça ne porte pas à conséquence, etc. Bon, ou bien, si l'intelligence nous en est donnée, c'est-à-dire je sais que c'est mal, je sais ce que c'est que le bien, nous voulons l'accomplir, mais nous ne le pouvons pas. C'est cette liberté, aussi bien que cette intelligence, que notre libérateur a promis de restituer à ceux qui croient en lui. Donc ça, c'est le salut. Bon. Voilà, donc je voulais en rester à ce premier point du dogme un peu difficile du péché originel, qui est que par un libre choix, quelque chose de la liberté est asservi. Et c'est donc tout le paradoxe. Alors, si on poursuit la lecture de la Bible, on arrive à des paradoxes encore plus grands et des difficultés encore plus grandes, que je me contente de signaler, puisque selon la Bible, finalement, ce péché lié à des libertés a une... Alors, excusez-moi, j'ai oublié que je voulais parler un tout petit peu de la dimension collective du péché originel. Donc, il faut que je le fasse. Pourquoi ce dogme du péché originel nous parle si peu? Probablement parce que, justement, nous en faisons une lecture trop individualiste. Mais il faudrait, pour pouvoir le comprendre, au fond, partir de ce qu'est la communion de l'humanité, et en particulier la communion de l'humanité en Adam, qui va être restaurée ensuite dans le Christ, et se dire qu'il y a en effet une espèce d'humanité de communion. Et si cette communion est réelle, eh bien tout ce qui vient la blesser a un impact sur l'ensemble de la communion. C'est-à-dire qu'en Adam, d'une certaine façon, ce sont tous les hommes qui se découvrent pécheurs. Ça n'est pas tant une histoire de transmission, comme une sorte de transmission génétique qui fait que l'arrière-petit-fils a les mêmes yeux que la grand-mère, l'arrière-grand-mère, mais plutôt une idée de solidarité du genre humain en Adam, qui fait qu'il y a cette communion pour le meilleur et pour le pire, ce qu'on appelle la communion des saints, qui s'inverse en solidarité des pécheurs. Et donc le dogme du péché originel, je ne sais pas si je suis très clair, mais il est sûrement à comprendre d'une manière collective, comme une solidarité du genre humain qui fait que tout péché, d'une certaine façon, retentit sur l'ensemble de l'humanité. Dostoïevski toujours, c'est le fameux Starets Sozimov, là, le vieux moine qui au moment de mourir parle à ses moines et qui dit voilà, tu es passé devant un enfant, tu étais soucieux, le front plissé, et tu n'as même pas vu que tu croisais cet enfant, et cet enfant t'a regardé, et tu n'as même pas vu que tu as déposé dans son cœur une graine de tristesse. C'est très beau ça. Ça signifie que j'en ai conscience ou non, le moindre de mes actes et peut-être le moindre de mes regards peut avoir un retentissement cosmique sur l'ensemble de l'humanité. Et alors peut-être que nous sommes tellement dans une logique individualiste, que nous avons tellement perdu le sens de la communion du genre humain, que nous avons du mal à comprendre cette solidarité qui peut s'inverser dans la logique du péché. Et bien justement, cette solidarité est tellement vaste que, pour la Bible, semble-t-il, et là je m'avance sur un terrain délicat, la faute originelle peut même avoir des conséquences cosmiques, justement, des conséquences sur la nature, y compris dans l'épreuve de la maladie, de la mort physique, etc. Alors ça, c'est très mystérieux parce que, après tout, un regard scientifique suffit à nous dire la maladie, sont des processus naturels, des déterminismes de la biologie, de la médecine, de la chimie, etc. Bon. Peut-être le plan scientifique, comme on l'a vu, a sa consistance, hein. Mais mystérieux, plus profondément que cela. Et la mort, c'est pareil. La mort physique, c'est un processus tout à fait naturel. N'allez pas chercher midi à 14h, cher monsieur, ce sont les lois de la nature. OK. Mais plus profondément que les lois de la nature, il y a le fait que notre conscience proteste contre cette mort inéluctable. Et que quelque chose dans cette mort inéluctable est contre nature. En particulier, cette dissociation du corps et de l'âme. Cette dissociation d'une unité qui est faite pour durer et qui se dissout. Eh bien, la Bible a l'audace de nous dire qu'il y a un rapport mystérieux, même entre la mort physique et le péché. Et puisque vous ne me croyez pas, je vous lis la Bible. Genèse 2, 17, vous voyez, il ne faut pas chercher très loin. « Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. » Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ah. Sagesse 2. Oui, Dieu a créé l'homme incorruptible. Il en a fait une image de sa propre nature. C'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. La mort, pas le péché. Le péché, mais la mort. Romains, donc Saint Paul, aux Romains. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort a passé en tous les hommes du fait que tous ont péché. Bon, alors je ne vais pas approfondir un peu plus ce mystère qui pose bien des problèmes, mais comprendre en tout cas que, je le dis d'une façon un petit peu nuancée, notre expérience de la mort telle que nous l'expérimentons nous, cette épouvantable dissociation de l'unité de notre personne, a quelque chose à voir en tant que conséquence du péché, en tant que conséquence d'un désordre qui affecte même la création. D'ailleurs, saint Paul nous dit que la création tout entière gémit dans les douleurs de l'enfantement. Et que d'une certaine façon, le salut s'étend jusqu'à l'ordre naturel de la création. Cela dit, c'est toujours un peu périlleux de commencer un parcours biblique par la face nocturne et ténébreuse, parce que précisément la Bible ne commence pas par ça. Et comme je vous le disais, la Bible commence toujours par l'expérience d'une libération. Qu'est-ce que c'est que l'Alliance? Qu'est-ce que c'est que l'événement biblique? C'est une série de libérations. Abraham est arraché de sa terre pour créer un peuple nouveau et franchir et pénétrer dans une terre nouvelle. Moïse est mis à la tête du peuple en captivité chez les Égyptiens. Il est celui qui va libérer le peuple. Mais à travers Moïse, c'est Dieu qui libère son peuple. Le roi est plus ou moins perçu, et là il y a des ambiguïtés dans la Bible, comme un libérateur. On attend du roi qu'il soit en tout cas un libérateur. Bon. Mais justement, là où les choses se corsent un petit peu, c'est que si on regarde les choses d'assez près, on s'aperçoit que la réponse de Dieu, alors j'aurais pu parler aussi de Babylone, de l'exil à Babylone, comment le peuple est revenu, etc. Bon. Mais on s'aperçoit que la réponse de Dieu n'est jamais tellement conforme à l'attente des hommes. Et il semblerait bien que les hommes attendent des libérateurs politiques et des rois, et que Dieu, semble-t-il, réponde autrement. C'est même vrai dans l'Évangile, puisque, lisez l'Évangile, sans arrêt, on dit au Christ, alors ta royauté, c'est pour quand? Qui sera à ta gauche? Qui sera à ta droite? Etc. etc. Bon, tu es le roi des Juifs. Il y a tout un jeu sur l'expression roi des Juifs. Alors, t'es vraiment un roi des Juifs? T'es pas le roi des Juifs? Bon. Voilà, si mon royaume était de ce monde. Bon, donc l'histoire du roi est une véritable obsession biblique. Le grand exégète Jacques Cazot en a fait le fil rouge de toute son œuvre. C'est une véritable obsession biblique qui est le lieu de tous les malentendus. Et Dieu répond toujours à côté. Confère le grand roi Salomon, qui est l'homme le plus sage de la terre. Bon. Comment il a fini ce grand homme? Il a épousé des tonnes de païenne, il leur a fait construire des temples païens aux quatre coins de Jérusalem et ça a précipité la chute de Jérusalem. Bon, alors ça, on ne le dit pas trop. Hein. Bon. Ben oui, mais c'est ça. La royauté est toujours décevante. Et il semble que dans la Bible, Dieu réponde en fait à côté. Dieu réponde autrement. Et donc, je voudrais maintenant tirer un autre fil rouge, qui est vraiment le fil rouge du salut, et que j'appellerais le mystère de l'innocent. Au lieu de nous donner la réponse à la question du mal, Dieu nous donne progressivement à contempler le mystère de l'innocent. Ça commence très tôt, ça commence avec Isaac, qui est l'innocent, qui va être tué par son frère. Ça continue avec Joseph, livré par ses frères. Ça continue dans les psaumes, évidemment, où les psaumes crient sans cesse l'angoisse d'un innocent persécuté. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On remarque au passage que la Bible prend toujours le parti de l'innocent et le parti de la victime. Mais évidemment, ça culmine dans un livre fameux qui est le livre de Job. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît le livre de Job. Hein, le livre de Job, qui date à peu près du IVe siècle avant Jésus-Christ, qui est une sorte de conte théologique, hein, c'est un personnage fictif. Et Job, vous savez, c'est cet homme pieux, heureux, hein, qui va subir toute une série de malheurs. Il va perdre ses troupeaux, il va perdre ses enfants, il va perdre sa santé et se retrouver pauvre comme Job sur son tas d'ordures, à gratter ses plaies avec des tessons. Et Job, donc, c'est l'image de l'innocent frappé, humilié, sans raison. Et vous vous rappelez peut-être que Job a des amis. Et donc les amis sont faits pour venir nous consoler quand on souffre. Et les amis de Job viennent le consoler en lui disant pourquoi il souffre. Et que lui disent-ils ? Tu souffres parce que tu es pécheur. Tu souffres parce que tu as fait quelques fautes, que tu nous caches ou que tu te caches. Et donc on voit apparaître là une vieille théorie païenne qui est la théorie de la rétribution. C'est-à-dire qu'un homme bon nécessairement doit être heureux et un homme méchant nécessairement doit être puni. Et toute l'histoire du livre de Job, c'est de nous montrer que ça ne se passe pas comme ça. Alors Job crie son angoisse vers Dieu, convoque Dieu en procès, maudit le jour de sa naissance. On est vraiment dans des textes quasi blasphématoires. Hein, maudire le jour de sa naissance, enfin dans la tradition biblique, Job n'est pas juif, mais ça veut dire justement refuser la création, reprocher à Dieu la création. Donc c'est un texte très très violent, 35 chapitres d'invectives et le silence de Dieu. Silence de Dieu. Et à la fin, Dieu apparaît, alors c'est un conte, hein, donc c'est très théâtral, bon. Dieu apparaît, et montre à Job sa création, étais-tu là quand j'ai lancé les univers, etc. Bon. Et se tourne vers les amis de Job. Alors évidemment, on s'attend à ce qu'ils leur disent, c'est bien les petits, continuez à être de bons catholiques. Mais non, Dieu dit aux amis de Job, hors de ma vue, vous qui avez mal parlé, mon serviteur Job a bien parlé. Et donc, c'est un peu le coup de théâtre final, c'est que finalement, Dieu donne raison à la protestation de Job. Et l'histoire se termine bien, bon, mais je ne raconte pas la fin. Mais le sens de ce conte, hein, c'est de dire que le mal est un mystère, mais que ça n'est pas en expliquant le mal, la souffrance, par le péché personnel de la personne qu'on y comprendra davantage. Et donc l'attitude de celui qui proteste est somme toute plus juste que l'attitude de celui qui explique. Mais retenons du livre de Job cette magnifique figure de l'innocent, du pauvre qui crie son innocence à Dieu, hein, et que finalement Dieu entend. Seulement, ça n'est pas encore, on n'est pas encore au sommet de la révélation biblique, hein, puisque le sommet, vous le savez, il est lu le vendredi saint dans les églises, c'est le fameux texte d'Isaïe, hein, le serviteur souffrant. Et alors là, on a un des textes les plus émouvants de l'Antiquité, c'est incroyable, un texte donc écrit sans doute à Babylone. Le peuple d'Israël est en captivité à Babylone. Il souffre, il ne comprend pas pourquoi Dieu le laisse en captivité. Et voilà qu'apparaît une figure du Messie qui n'est plus du tout un Messie guerrier et triomphant. C'est autre chose. C'est le fameux serviteur souffrant. C'est le fameux innocent. Et alors là, je me permets de vous relire quelques passages de ce texte sublime et très déroutant. Comme un surgeon, le serviteur a grandi devant lui comme une racine en terre aride, sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, sans apparence qui nous eût séduit. Objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face, méprisé, nous n'en faisions aucun cas. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous, amis de Job, nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Il souffre, il est pécheur. Et là, le texte est encore plus explicite que dans Job. Le texte dit « Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. » Voilà, texte prodigieux qui est plus long que ça, ça n'est qu'un petit extrait. Hein. Texte bouleversant qui nous donne à voir un serviteur, un homme défiguré, inhumain, hein, et que nous croyons frappé par Dieu. Et texte qui nous dit très explicitement que cet homme porte le péché du monde et que dans ses blessures, nous trouvons notre guérison. Donc texte écrit vers 550 avant Jésus-Christ. Voilà. Bien entendu, alors voilà, l'innocent révélé par l'Ancien Testament, il est là. Il est là et c'est la suite de toute cette longue série d'innocents, de figures de l'innocent. Bien sûr que les chrétiens vont reconnaître dans le Christ et dans la passion du Christ le serviteur souffrant d'Isaïe. Et même les textes de la passion sont aussi écrits pour faire ce lien. Mais n'allons pas trop vite. Pour les juifs qui ne reconnaissent pas le Christ, le serviteur souffrant parle. Mais qui voit-il dans ce serviteur souffrant, sinon le peuple d'Israël lui-même ? C'est-à-dire une figure collective du peuple d'Israël qui, à travers toutes ces tribulations, ces siècles et ces millénaires de persécution, et Dieu sait qu'il y en a eu, et ce peuple, tout de même, messianique, par qui vient le salut. Et vous voyez, dans le dialogue, je fais une parenthèse, ce n'est pas le sujet du jour, mais dans le dialogue judéo-chrétien, la figure d'articulation, la pierre d'angle, c'est le serviteur souffrant. Et je me dis parfois que le jour où les Juifs reconnaîtront dans le serviteur le Christ, mais où les chrétiens reconnaîtront dans le serviteur le peuple d'Israël, on aura gagné. C'est-à-dire que ce sera le jour de la grande réconciliation. Parce qu'il ne faut pas séparer les deux. Jésus, c'est le peuple d'Israël. C'est la fine fleur du peuple d'Israël. Et Jésus assume toute cette histoire de souffrance et de témoignage par la souffrance. Voilà, et j'en arrive donc au Nouveau Testament et à l'Évangile. Certes, les Juifs ne reconnaissent pas Jésus comme le Sauveur. On pourra y revenir dans les questions. En quoi, pour un chrétien, Jésus est-il le Sauveur ? Et pourquoi a-t-il fallu que, vous avez compris, pour qu'un homme puisse porter toute cette histoire de violence, de haine et de révolte, il faut qu'il soit lui-même l'innocent. Il faut qu'il soit lui-même sans révolte. Pour pouvoir assumer toute cette histoire, il faut que lui n'ait rien à voir avec le mal. Pour qu'il puisse vraiment donner sa vie sans aucun partage dans son cœur. Pour les chrétiens, seul Dieu lui-même, à travers son Fils, peut être ce serviteur souffrant, peut être cet innocent. Et c'est la logique donc de l'incarnation et de la rédemption. Qu'est-ce que l'on appelle la rédemption ? Si on le dit avec les pères de l'Église nous disent que tout ce qui n'est pas assumé par Jésus n'est pas sauvé. Pour pouvoir sauver l'homme, il faut assumer tout de ce qu'il porte, tout de ce qu'il vit. Et l'incarnation, c'est l'histoire en quelque sorte de Jésus qui assume, de Dieu qui assume toute la condition humaine, dans toutes ses dimensions. Il faudrait relire l'Évangile en disant Jésus a travaillé dans l'ombre de Nazareth et depuis qu'il a assumé cette condition laborieuse et pénible du travail, le travail est sauvé. Jésus a eu soif au bord du puits de Jacob et depuis toutes nos soifs sont sauvées. Jésus a pleuré sur le corps de son ami Lazare et depuis, toutes nos tristesses sont sauvées. Jésus a bien sûr souffert l'injustice, on lui a craché au visage, on l'a frappé, on l'a flagellé, et notre souffrance, nos souffrances sont sauvées. Dans sa passion, il assume toute la condition souffrante de l'humanité, jusqu'à la mort, et cette condition souffrante est sauvée. En pardonnant à ses bourreaux, il nous libère, nous qui sommes ses bourreaux, de toutes nos complicités avec le mal. Et puis, ça va jusqu'à la résurrection par laquelle il renverse le sens de la mort. La mort n'a plus le même sens depuis la résurrection du Christ. Elle n'est plus cette chose absurde et horrible. Elle est cette chose absurde et horrible sauvée. Elle est le chemin vers la vie, vers l'éternité. Voilà, dit de façon évidemment trop rapide, trop sommaire, cette logique du salut, c'est-à-dire cette logique que seul l'innocent peut porter l'ensemble du mal, de la violence, du péché, pour en libérer l'humanité. C'est une logique aussi du sacrifice. Mais ici, le sacrifice prend aussi une dimension nouvelle. D'ailleurs, je m'aperçois dans mon petit parcours désinvolte que j'ai oublié l'une des plus belles figures d'innocent, qui est la figure d'Isaac. Bon. Heureusement qu'on y pense maintenant. Isaac, l'enfant de la promesse. Abraham, Sarah ne pouvaient pas avoir d'enfant. Dieu leur donne cet enfant, Isaac, l'enfant de la promesse. Et qu'est-ce qui se passe juste après? Dieu leur demande de sacrifier cet enfant. Texte épouvantable qu'on n'a pas fini de commenter encore aujourd'hui. D'immenses philosophes, d'ailleurs, se sont coltinés ce texte, comme Kant ou Kierkegaard. Un Dieu qui demande cela, est-il le vrai Dieu? Alors Kierkegaard répond, oui, c'est bien parce qu'il demande l'absurde qu'il est le vrai Dieu. Bon, mais quand même, saint Paul nous dit que ce texte, de fait, n'a pas sa clé en lui-même. Ce texte ne trouve sa clé que comme figure du seul sacrifice, du seul innocent qui est le Christ. Ce Père qui donne son Fils, seul Dieu peut l'être. Dieu ne le demande pas à un Père, ce n'est pas possible. Mais Dieu peut donner son Fils en sacrifice. Et donc le sacrifice d'Isaac, c'est une figure du salut. C'est une figure du salut, selon saint Paul. Dieu n'est pas un despote qui exige des sacrifices extérieurs. Ce qu'il demande, c'est un cœur brisé. Ça, c'est le psaume qui nous le dit. Mais ce que nous dit l'Évangile, c'est que c'est Dieu lui-même qui se donne en sacrifice. Il est le prêtre, l'autel et la victime. Vous voyez l'idée de sacrifice qu'on peut associer aux religions les plus païennes et les plus frustes, est une idée qui peut être complètement assumée et complètement transfigurée dans la passion du Christ. C'est autre chose. C'est autre chose. Voilà, j'en arrive à la fin, sinon... À la conclusion, saint Augustin disait que finalement toute cette histoire de mort et de liberté blessée, elle débouche sur un salut, sur une libération de nos libertés. Nos libertés sont libérées par le Christ. Et que ce salut, d'une certaine façon, nous élève au-dessus même de la condition d'Adam. Dans le Christ, nous sommes sauvés et nous sommes placés dans une situation qui est en quelque sorte supérieure à celle qui était la situation d'Adam. Dans le Christ, nous avons en quelque sorte, nous sommes adoptés par Dieu, nous rentrons dans une intimité encore plus forte avec Dieu. Voilà pourquoi saint Augustin ose dire « Bienheureuse faute qui nous valut un tel sauveur ». Bienheureuse faute qui nous valut un tel sauveur. C'est toujours la même logique, c'est-à-dire ce qui est premier, c'est jamais la faute. Ce qui est premier, c'est le salut. Ce qui est premier, c'est l'alliance, c'est la promesse. Et dans la lumière de cette alliance, dans la lumière de ce salut, je peux comprendre que ma liberté, oui, doit être sauvée.